Iowa, Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Morgane Guiriec et Eric Manirakiza en votre compagnie. Bienvenue dans cette édition du vendredi 7 octobre 2016. Au sommaire ce soir.
Au Niger, 22 soldats tués dans une attaque djihadiste dans un camp de réfugiés près de la frontière avec le Mali.
Le Burundi en crise veut quitter la CPI. Le gouvernement a envoyé au Parlement un projet de loi pour adoption.
Les Marocains choisissent leurs députés. Les islamistes à la tête du gouvernement de coalition depuis 5 ans tentent de conserver la majorité face aux modernistes.
Aux États-Unis, la Floride affronte Matthew, un ouragan meurtrier qui a fait au moins 800 morts à Haïti.
Syrie, Washington réclame une enquête pour crimes de guerre à Alep visant Damas et son allié russe. Le Conseil de sécurité des Nations Unies se réunit en urgence.
Le Nobel de la paix, attribué au président colombien Juan Manuel Santos par le comité Nobel norvégien.
L'économie et les sports.
Juste après le journal.
Nous ouvrons sur l'attaque qui a frappé le Niger hier. Des dizaines d'hommes lourdement armés ont mené un raid sur le camp de réfugiés maliens de Talazit, dans la région de Taoua, près de la frontière avec le Mali. Ils ont pris pour cible le poste de sécurité du camp. 22 soldats stationnés dans ce camp de réfugiés ont été tués. Les djihadistes sont pointés du doigt. Le point avec Abdelazak Idrissa à Niamey.
L'attaque a eu lieu jeudi en début d'après-midi. Des assaillants venus en nombre prennent d'assaut le poste de sécurité d'un site qui abrite des réfugiés maliens. Visiblement surpris par les faits, les éléments des forces de défense et de sécurité nigériennes n'ont pas pu réagir. Le bilan est lourd, 22 morts selon le Premier ministre Brigitte Raffini. Selon plusieurs sources, les assaillants seraient des djihadistes du groupe ACMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique. Des opérations de ratissage et de poursuite ont été engagées aussi bien par les moyens aériens que terrestres. C'est le choc à Niamey, encore des militaires tués par des assaillants alors que la guerre contre Boko Haram continue. Les 22 militaires ont été enterrés ce matin. Beaucoup d'interrogations suite à cette attaque qui intervient après l'annonce de l'installation d'une base militaire allemande dans le pays. Ce fut en effet le cas au lendemain de l'annonce de l'installation d'une base militaire française. L'armée nigérienne a été la cible d'une autre attaque, tant et si bien que beaucoup y voient une sorte de justification supplémentaire à l'installation de ces bases militaires. En voyage aux Émirats Arabes Unis, le président Issoufou Mahamadou a posté un message de compassion sur son compte Twitter.
Concernant le Niger toujours, la fièvre de la vallée du Rift sévit toujours dans l'ouest du pays. Le ministère de la Santé compte au moins 20 morts et la maladie est transmise par les moustiques selon l'OMS.
La chancelière allemande Angela Merkel entame dimanche une tournée de 3 jours au Mali, au Niger et en Éthiopie. Elle entend intensifier la collaboration avec ces pays pour endiguer le flux des migrants qui tentent de gagner l'Europe depuis l'Afrique.
Affrontement entre le Puntland et le Galmudug, deux régions autonomes du nord de la Somalie. Au moins 6 combattants ont été tués et 9 blessés. Les tensions entre les deux camps ont éclaté en septembre après que le Galmudug se soit plaint de la mort de 13 de ses soldats, tués par une frappe américaine qui visait en fait des islamistes Shebab. Le Galmudug accuse le Puntland d'avoir sciemment fourni de fausses informations aux Américains pour mener cette frappe.
Et en Éthiopie, le Haut Commissariat de l'ONU pour les droits de l'homme demande une enquête indépendante sur les violences du week-end dernier lors d'un festival dans la région de Oromia. Une bousculade provoquée par des tirs de gaz lacrymogènes de la part de la police a fait au moins 52 morts. Les Nations Unies demandent au gouvernement éthiopien de prendre des mesures concrètes face aux tensions croissantes et d'autoriser la venue d'observateurs. L'Éthiopie est actuellement en proie à un mouvement de contestation antigouvernementale sans précédent depuis une décennie.
Les Marocains votaient aujourd'hui pour élire leurs députés dans un scrutin où les islamistes, à la tête du gouvernement de coalition depuis 5 ans, tentent de conserver la majorité face aux modernistes. Le taux de participation était de 10% à la mi-journée. Le vote se déroule dans des conditions normales. C'est ce qu'a annoncé à la mi-journée le ministère de l'Intérieur. Salwa Jafari. Les bureaux de vote ont ouvert à 8h GMT. Ils fermeront à 19h. Les premiers résultats locaux devront être diffusés dans la foulée. Les Marocains ont voté dans le calme. Ils sont généralement plus nombreux à se rendre aux urnes après la prière du vendredi.
Je suis venue accomplir mon devoir de citoyen parce que c'est un droit, mais c'est aussi un devoir pour les générations à venir, en fait, pour construire le Maroc de demain.
Près de 16 millions d'électeurs sont appelés à voter pour élire leurs 395 députés dans 92 circonscriptions et selon un système de liste à la proportionnelle. Ces législatives s'annoncent comme un face-à-face serré entre le parti Authenticité et Modernité, formation libérale dirigée par Ilyes Laoumari, et les islamistes du parti Justice et Développement, PJD. Écoutons le Premier ministre Ben Kiran après avoir voté.
J'ai dirigé le gouvernement pendant 5 ans et les Marocains ont constaté mon travail avec leurs propres yeux. Nous avons mené une campagne électorale réussie, la plus grande au Maroc. Maintenant, nous devons nous attendre à des résultats normaux.
Emmené par l'actuel chef du gouvernement, le parti islamiste entend décrocher un deuxième mandat pour continuer la réforme, avec toujours en arrière-plan le référentiel islamique.
Afrique du Sud, des centaines d'étudiants ont manifesté à Johannesburg pour réclamer une éducation gratuite pour tous. Les troubles ont été provoqués par la décision du gouvernement d'autoriser une augmentation des frais de scolarité universitaire.
Sachez aussi que c'était l'anniversaire de Desmond Tutu aujourd'hui. Le prix Nobel de la paix sud-africain a fêté ses 85 ans au Cap. Il a défendu le droit au suicide assisté pour lui comme pour les autres personnes en fin de vie.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste du monde, l'ouragan Matthew fouettait ce matin la côte est de la Floride de violentes bourrasques accompagnées de pluies torrentielles. Matthew a fait plus de 800 morts en Haïti et laissé des champs de ruines sur son passage. Les précisions de Tatiana Mosso.
Matthew est désormais catégorie 3 sur l'échelle de Saffir-Simpson qui en compte 5, mais il reste extrêmement dangereux. Il y a un risque d'inondation meurtrière en Floride, Géorgie et Caroline du Sud. Dans ces trois États, le président Barack Obama a déclenché un plan d'urgence fédéral permettant de mobiliser davantage de ressources. Plus de 1,5 million d'habitants ont été appelés à évacuer dans l'État, où quelques 3 500 militaires de la garde nationale sont mobilisés, 4 000 gardes supplémentaires étant en alerte. Au moins 22 000 personnes ont été rassemblées dans des refuges. Même si les experts s'attendent à un affaiblissement graduel des vents dans les 48 prochaines heures, les autorités locales sont sur le pied de guerre. Mesure rarissime, le géant du divertissement Disney a ordonné jeudi la fermeture de tous ses parcs d'attractions en Floride à partir de la fin d'après-midi jusqu'à vendredi.
Le prix Nobel 2016 de la paix a été attribué ce vendredi au président colombien Juan Manuel Santos pour ses efforts déterminés en faveur de la paix en dépit de l'échec du référendum sur l'accord conclu avec les forces armées révolutionnaires de Colombie. C'est ce qu'a annoncé le comité Nobel. On fait le point avec Nani Talani.
Le comité a souligné que ce prix doit aussi être vu comme un hommage au peuple colombien qui, malgré de grandes difficultés et de grandes souffrances, n'a pas renoncé à l'espoir d'une paix juste et à toutes les parties qui ont contribué au processus de paix. Mais contrairement à plusieurs Nobel dans le passé, ce prix n'a été décerné ni aux FARC, co-signateurs de l'accord de paix, ni à leur commandant en chef, Timo León Jiménez, alias Timochenko, mais seulement au président colombien Juan Manuel Santos, qui a dit l'accepter au nom du peuple colombien qui a tant souffert de cette guerre. Juan Manuel Santos estime que cette distinction est un grand encouragement pour l'aider à remettre sur les rails l'accord de paix historique signé avec la guérilla marxiste des forces armées révolutionnaires de Colombie après son rejet par la population. Négocié pendant plus de 4 ans et signé fin septembre par le président Santos et Rodrigo Londoño, le chef des FARC, l'accord de paix devait mettre un terme à 52 ans d'un conflit armé qui a fait 220 000 morts et déplacé des millions de personnes. Cependant, l'accord a été rejeté dimanche par référendum, les Colombiens réclamant que les guérilleros démobilisés ne puissent pas participer à la vie politique et qu'ils aillent en prison au lieu de bénéficier de peines alternatives.
Nanit Talani, vote demain au Conseil de sécurité de l'ONU d'un projet de résolution sur la Syrie préparé par Paris. Selon le ministre français des Affaires étrangères Jean-Marc Ayrault, ce texte représentera un moment de vérité pour la Russie. Washington, quant à lui, réclame une enquête pour crimes de guerre à Alep visant Damas et son allié russe.
Par ailleurs, une corvette lance-missiles russe, un navire chargé de lanceurs de missiles de croisière, s'est dirigé aujourd'hui en Méditerranée pour appuyer ses opérations militaires en Syrie. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. On enchaîne sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs. La Minute Éco avec Nanit Talani.
Le groupe français Canal+ déploie son offre de TNT payante Easy TV à Kinshasa, la capitale de la RDC, depuis le 6 octobre dernier, après Lubumbashi, la deuxième ville du pays. L'abonnement mensuel est fixé à $14, moins cher que son équivalent français qui coûte entre $22 et $56. Le bouquet Easy TV cible principalement les classes moyennes. Il donne accès à une trentaine de chaînes. Après Kinshasa et Lubumbashi, Canal+ vise prochainement le lancement de Easy TV à Brazzaville, en République du Congo. Selon une enquête publiée par Reuters, plusieurs analystes ne sont pas convaincus que la proposition de l'OPEP de réduire la production pour la première fois depuis 2008 fasse beaucoup monter les prix du baril. Leur pessimisme est lié à la difficulté d'un accord global lors de la réunion de novembre de l'OPEP, car, d'après eux, les producteurs ont toujours rechigné à accepter ou à adhérer à des quotas de production individuelle. Les 32 analystes et économistes interrogés ont ramené leur prévision du cours moyen du baril de Brent cette année à $44.74 contre $45.44 anticipés en août. Enfin, le premier salon de l'immobilier africain en France, Urbafrica, a ouvert ses portes aujourd'hui à Lyon. Cette grand-messe va durer 2 jours. Partie du constat d'un manque cruel de logements en Afrique et du fait que l'immobilier est le premier poste d'investissement de la diaspora africaine, ce salon offre une opportunité de rencontre et d'échange sur les moyens à trouver pour rendre ces investissements sécurisés.
Votre page sportive avec Bagassi Koura. Bonsoir Bagassi.
Oui, bonsoir Eric, bonsoir à tous.
Coupe du Monde 2018, la phase de groupe des éliminatoires africaines démarre ce vendredi.
Oui, elle a déjà démarré avec ce 0-0 à Tamale au Ghana. Les Black Stars ont été tenus en échec à l'instant même sur leurs propres installations par l'Ouganda lors du premier match de ce week-end du groupe E. Les Black Stars étaient menés par leur capitaine Asamoah Gyan qui est de retour de blessure. Dans le même groupe E, le Congo-Brazzaville affronte l'Égypte dimanche.
Et dans le groupe A.
Et c'est demain, samedi, la RD Congo avec Dieu merci Mbokani qui est de retour reçoit la Libye au complexe Omnisport des Martyrs de Kinshasa. Et dimanche, explication entre la Tunisie et la Guinée.
Il y a aussi le groupe B.
Oui, les Chipolo Polo de Zambie qui reçoivent au stade Levi Mwanawasa les Super Eagles du Nigeria, tandis que les Fennec d'Algérie vont en découdre avec les Lions Indomptables du Cameroun dans l'ambiance du Mustapha Chaker de Blida.
Qu'en est-il du groupe C?
Eh bien, c'est samedi toujours à Libreville. Choc entre le Gabon et les Lions du Maroc. Un autre match à surveiller de près, celui entre voisins ouest-africains, les Aigles du Mali qui seront en déplacement à Bouaké pour défier les éléphants de Côte d'Ivoire, toujours ce samedi.
Enfin, groupe D, Bagassi.
Oui, ce sera au stade du 4 août 1, le grand rendez-vous entre les étalons du Burkina Faso qui reçoivent les Bafana d'Afrique du Sud, tandis que les Lions du Sénégal, eux, reçoivent à Dakar le Cap Vert.
Regard sur la qualification du Mondial 2018, zone Amérique du Sud.
Eh bien, l'Argentine, tenue en échec par le Pérou, 2-0 en l'absence de Lionel Messi, a rétrogradé à la 5e place des qualifications sud-américaines pour le Mondial 2018 ce jeudi, tandis que le Chili s'éloigne toujours plus de la Russie après son revers face à l'Équateur 3-0. Quant au Brésil et sa star Neymar, elle a écrasé la Bolivie, surclassée 5-0 dans le cadre des éliminatoires donc sud-américaines de cette Coupe du Monde 2018 en Russie.
Oui, Cannes 2017, il y a tout doute sur le stade Omar Bongo pour ouverture et clôture.
Oui, les matchs d'ouverture et de clôture de la Coupe d'Afrique 2017 au Gabon pourraient se tenir ailleurs qu'au stade Omar Bongo de Libreville pour cause du retard des travaux. C'est en tout cas ce qu'a déclaré le patron de la CAF, Issa Ayatou.
Et c'est tout pour les sports. Merci Bagassi.
Merci et bon week-end.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes toujours à l'écoute de VOA Afrique, Morgane Diriek et Eric Manirakis en votre compagnie. Place au dossier du jour et la première escale ce soir, c'est le Niger.
Exactement, Morgane. Nouvelle attaque djihadiste dans le pays et l'attaque a visé le camp de réfugiés maliens de Tazalit. Une quarantaine d'hommes lourdement armés ont mené cette attaque aux environs de 14 heures et tué 22 soldats de l'armée nigérienne. Les assaillants sont partis avec du matériel militaire et des vivres. Selon Moussa Aksar, directeur de publication du journal nigérien L'Événement et spécialiste des questions de sécurité au Sahel, la situation géographique isolée du camp en fait une cible facile. Mais pour lui, la grande menace se trouve du côté de la frontière avec la Libye. Arzuma Compaoré a joint Aksar Moussa à Niamey.
Et au sein des populations aujourd'hui, c'est l'émotion et le total. Cette attaque surprise d'un camp isolé à la frontière nigéro-algérienne et malienne. Ce camp est mal loti parce qu'il est pris en tenaille entre la zone de Tassara où qui est une zone de prédilection de tous les trafiquants de drogue et autres trafics de tout acabit. Et de l'autre côté, vous avez les éléments, le no man's land malien où sont réfugiés tous les djihadistes qui écument cette région-là. Ils ont profité aux environs de 14 heures de la baisse de vigilance au niveau de ce poste avancé pour l'attaquer et prendre tout le matériel militaire pour aller encore pour se réfugier au Mali où vraiment vous savez que c'est un hub du terrorisme dans cette région-là.
Alors on sait que le Niger accueille pas mal de réfugiés. Qu'est-ce qui est fait au niveau de l'État, du gouvernement pour assurer leur sécurité?
Bon écoutez, nous avons un territoire très vaste et très difficile à contrôler. Et en plus, vous avez des réfugiés. Parmi ces réfugiés, il y a une complicité aussi, il faut le dire. On l'a vu avec les réfugiés au sud de Boko Haram, des réfugiés du Nigeria. On l'a vu aujourd'hui avec les réfugiés du nord Mali. Et donc, parmi ces réfugiés, il y a aussi des éléments djihadistes qui incontrôlés qui ont infiltré ces populations réfugiées-là.
La question qui vient à l'esprit, c'est de savoir aussi si la force qui est assignée à la protection de ces camps de réfugiés, est-ce qu'elle a suffisamment de ressources pour se défendre face à ces attaques djihadistes?
Écoutez, elle n'a pas les ressources. Aujourd'hui, les ressources nigériennes sont limitées. Donc, les positions de l'armée nigérienne sont équipées, mais pas comme ceux des djihadistes qui s'adonnent au trafic de tout genre. Heureusement qu'il y a la présence de forces étrangères, notamment les bases américaines et françaises qui surveillent cette zone-là. Et il y a aussi cette zone de la Libye qui risque aussi de faire beaucoup mal à l'État nigérien.
Moussa Aksar, directeur de publication du journal L'Événement et spécialiste des questions de sécurité dans le Sahel.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24 heures sur 24.
Le Burundi a décidé de quitter la Cour pénale internationale. Hier, le Conseil des ministres a adopté un projet de loi de retrait qui sera examiné et approuvé par l'Assemblée nationale. De même, il y a une semaine, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a ouvert une enquête sur les crimes commis dans le pays. La procureure de la CPI a lancé en avril un examen préliminaire sur des meurtres, tortures et viols notamment. Bujumbura estime qu'il s'agit d'un complot de la communauté internationale. Éric Manirakiza, adjoint à Londres, Karina Terkassian, chercheuse de Human Rights Watch sur le Burundi.
Bon, ce serait une mesure vraiment regrettable, hein. Regrettable, mais peut-être pas tout à fait surprenante, hein, parce que malheureusement, le gouvernement burundais chaque fois qu'il y a des critiques par rapport à la situation des droits humains dans le pays, réagit de manière négative et même hostile. Hein. Par exemple, il n'y a pas longtemps, lorsque le comité contre la torture des Nations Unies faisait son examen de la situation au Burundi, la délégation burundaise ne s'est même pas présentée le deuxième jour pour répondre aux questions.
Qu'est-ce que Bujumbura a à perdre dans tout cela ?
Bon, il semble que cette décision du gouvernement burundais est liée ou provoquée par la résolution du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies qui, vendredi dernier, a adopté une résolution créant une commission d'enquête internationale. Il semble donc que certaines autorités burundaises craignent peut-être que cette commission d'enquête ne mène pas par la suite à d'autres enquêtes et éventuellement des poursuites au niveau de la Cour pénale. Mais à notre avis, une décision de se retirer serait plutôt un signe de faiblesse et montrerait que le Burundi a quelque chose à cacher.
Le gouvernement de Bujumbura dénonce un complot de la communauté internationale. C'est cette motivation qui a entraîné la décision de retrait.
Ils peuvent parler de complot, mais chacune de ces organisations a travaillé de manière tout à fait indépendante et a tiré les mêmes conclusions.
Y a-t-il un intérêt de rester au sein de la Cour pénale internationale ?
Absolument, il y a un intérêt important pour le Burundi. Tout d'abord, si le Burundi veut vraiment démontrer son engagement par rapport à la justice, par rapport au respect des droits humains, la Cour pénale internationale actuellement est en train de mener un examen préliminaire de la situation au Burundi. Ce n'est pas une enquête en tant que telle, c'est la première étape. On ne sait pas encore si ça va aboutir sur une enquête, mais si jamais la Cour décide de lancer une enquête, le Burundi devrait coopérer pleinement avec cette enquête. Ce serait donc dans son intérêt de participer pleinement à cette initiative.
Voilà, c'était Karina Tersakian de Human Rights Watch à Londres.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Bujumbura sur 94.9 FM au Burundi.
Scène de désolation en Haïti après le passage de l'ouragan Mathieu en début de semaine. Pour l'heure, on dénombre plus de 800 morts, un bilan qui reste toutefois incertain sur le terrain. Les ONG et secours sont engagés dans une véritable course contre la montre pour venir en aide aux sinistrés. Ces derniers ont urgemment besoin de vivres et de médicaments alors que les risques sanitaires inquiètent de plus en plus. Jacques Aristide a recueilli le témoignage du coordonnateur de la plateforme à Haïti, Jean Chavanne-Jeune, qui revient d'une visite dans le sud du pays, la région la plus ravagée par l'ouragan.
Dimanche soir, on a été dans la Gordance à Jérémy. Avec beaucoup de peine, nous avons atteint les cailles. Après, on est arrivé à Port-au-Prince. Et la catastrophe totale au niveau des départements de la Gordance et du sud. Il n'y a presque pas de maison en toiture. Des tôles qui soient restées debout, les églises, les maisons et également les écoles. Sans oublier que et Jérémy, et Grandance et le sud, ce sont des zones facilement inondées. Le niveau de la ville des Cailles est au-dessous du niveau de la mer. Pour Jérémy aussi, il y a les grandes rivières, elles sont toutes en catastrophe. Du côté des bétails, il ne reste plus rien. Et également les jardins ont tous été emportés, les maisons ont été effondrées pour la plupart de la Grandance, de Marie, Jérémy, Beaumont, Pestel, Corail. C'est vraiment difficile d'accès. C'est ce matin qu'on a annoncé qu'on a créé une petite voie pour rentrer à Jérémy. Et nous allons en profiter pour envoyer de l'aide à cette zone rattrapée et également dans le sud. Et également dans le sud-ouest, il y a pas mal de dégâts. Dans le nord-ouest, il y a pas mal de dégâts. Et ces dégâts se résument en perte de maisons, bétail, jardins et vies humaines. Nous sommes rendus à près de 400 morts à présent et on n'a pas encore terminé l'évaluation. Donc on doit attendre la fin de la semaine pour avoir le chiffre réel, le bilan de morts.
Quel type d'aide dont ont besoin d'urgence les habitants touchés par l'ouragan et que font les autorités haïtiennes et la communauté internationale pour venir en aide à ce pays ravagé?
Nous avons classé le type d'aide les extrêmes urgences. Ils sont de l'eau, de la nourriture, des provisions médicales parce qu'il y a un risque de typhoïde et de malaria qui peuvent surgir. Aussi, les proies sont déportées, donc on a besoin de tôles de bois, des clous pour réparer provisoirement ou temporairement les maisons. Il y a aussi les kits hygiéniques comme savon et pâte. Deuxième intervention, c'est au niveau réhabilitation. Ça va prendre peut-être un mois. Donc, pour réhabiliter les écoles, les églises, de façon à rendre opérationnelles les écoles dans le meilleur délai, puisqu'on a perdu déjà une bonne partie de l'année. Des kits scolaires, encore de l'alimentation et également des interventions médicales à plus profondeur des cliniques mobiles. Et la troisième exigence, c'est que nous aurons appelé des projets durables ou soutenables. Et nous appelons à la communauté internationale de nous rejoindre de manière à essayer d'apaiser cette situation réellement catastrophique.
Jean Chavanne, jeune à Port-au-Prince, et Washington a déployé un porte-avions avec 300 marines à bord.
Présidentielle américaine 2016, le deuxième duel qui opposera Hillary Clinton et Donald Trump se tiendra dimanche. Salwa Jafari nous en dit plus.
Et oui, le deuxième match choc entre les deux candidats se tiendra à l'université Washington de Saint Louis dans le Missouri. Prévu pour une durée de 90 minutes, il sera animé par Martha Raddatz, journaliste spécialiste des questions internationales de la chaîne ABC, et Anderson Cooper, journaliste vedette de CNN. Le débat prendra la forme d'un town hall, c'est-à-dire une séance de questions-réponses avec les électeurs. Le public posera des questions aux candidats qui auront deux minutes pour y répondre. Les deux journalistes seront chargés de relancer les candidats. Nous allons bien évidemment couvrir le débat pour vous. Et en parlant de couverture, aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un aspect de cette campagne électorale, le rôle des médias. La campagne présidentielle 2016 présente plusieurs défis inhabituels aux journalistes et aux médias qui la couvrent. L'un des principes du journalisme sérieux aux États-Unis, c'est l'impartialité. Mais les déclarations controversées du candidat républicain Donald Trump et les accusations de parti pris de la droite par les médias en faveur de sa rivale démocrate Hillary Clinton ont mis un coup de projecteur sur la couverture médiatique elle-même. Les médias sont devenus des acteurs incontournables de cette élection. Ils sont devenus protagonistes de cette campagne. On écoute Tom Rosenthal du American Press Institute.
Donald Trump en particulier et le parti républicain en général ont fait de la presse un personnage de cette campagne en disant que la presse était incompétente, que la presse veut les détruire. C'est un niveau de diabolisation de la presse que nous ne voyons pas habituellement.
À l'heure où les supporters de Trump crient au parti pris, ceux de Clinton accusent les médias de fausse partialité, suggérant que les citations de la candidate présentées comme preuve de sa malhonnêteté ne sont pas équivalente aux preuves de la malhonnêteté de Trump. Dori Toribio, la correspondante de la RTVE, une télévision espagnole, dit qu'elle ne croit pas qu'il y ait de parti pris.
Les médias critiquent Donald Trump à cause de ce qu'il fait et ce qu'il dit, pas à cause d'un parti pris idéologique ou politique.
Le conseil de Tom Rosenthal pour tous les journalistes qui couvrent cette élection.
Ce dont nous avons besoin de nos journalistes, ce sont des gens qui disent « je m'engage » à être un observateur au nom des autres citoyens. Mais au final, c'est aux citoyens de déterminer ce que cela signifie.
En tout cas, cette campagne aura été un tour de montagne russe pour les Américains, mais aussi pour tous les journalistes qui couvrent cet événement.
C'est la fin de cette édition. Lionel Gaïma à la mise en onde. Présentation Morgane Diriec et Eric Manirakiza.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Restez à l'écoute de VOA Afrique sur notre site internet voaafrique.com.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
diffusée partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM. Kledou FM Bamako. Raga FM Goma. 96.5 Fraternité FM Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.